Chapitre 15. Parabellum. Si vis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Végès. Un Rubik's Cube de 20 mètres de haut, posé sur le côté est de la 5e avenue. Coincé entre les bâtiments du Mount Sinai Hospital et le musée de la ville de New York, le laboratoire d'hématologie médico-légale occupait le dernier étage d'un bâtiment ultramoderne, dont la façade cristalline, constituée de panneaux de verre carrés multicolores, rappelait le célèbre casse-tête géométrique à trois dimensions. Il avait fallu à Gabriel et Alice moins d'un quart d'heure pour rejoindre la frontière de l'Upper East Side et de Spanish Harlem. Par chance, ils débarquaient à l'heure du déjeuner, et de nombreuses places de parking s'étaient libérées. Ils garèrent la Shelby dans l'une des rues qui bordait l'immense enceinte comprenant l'hôpital et le campus de l'école de médecine. « Vous m'attendez dans la voiture, ok ?»« Vous rigolez ? Pas question, je viens avec vous. »« D'accord, » soupira Gabriel. « Mais vous me laissez parler. C'est moi qui mène l'enquête, compris ?»«
Compris, chef, »
se moqua-t-elle en ouvrant la portière. Il sortit à son tour. « Et on ne perd pas de temps, d'accord ?» lança-t-il en regardant l'heure à l'horloge d'un parc-mètre. Alice hocha la tête en silence et le suivit dans le hall, puis dans l'ascenseur. À ce moment de la journée, l'étage du laboratoire était presque vide. Derrière le comptoir d'accueil, une hôtesse terminait une salade de crudités dans une barquette en plastique. Gabriel se présenta et demanda à voir Eliane Pelletier, la directrice adjointe du labo. « Elle est française ?» s'étonna Alice en tiquant sur la consonance du nom. « Non, québécoise. Et je vous préviens, elle est un peu spéciale, » confia-t-il en haussant un sourcil. « C'est-à-dire ?»« Je vous laisse la surprise. » Eliane Pelletier apparut immédiatement au bout du couloir.
« Gabi, mon grand, tu es venu me présenter ta fiancée ?» lui cria-t-elle de loin.
C'était une petite femme robuste aux cheveux gris coupés courts. Elle portait des lunettes carrées et une blouse blanche, ouverte sur une ample tunique noire. Rond et doux, son visage évoquait celui d'une poupée russe.
« Je suis heureuse que tu sois enfin casée !»
le taquina-t-elle en lui donnant une accolade. Il se garda bien d'entrer dans son jeu. « Eliane, je te présente le capitaine Schaeffer de la brigade criminelle de Paris. »«
Bonjour ma jolie !»
lança-t-elle en étreignant Alice.
« Maudit français, va !»
Ils la suivirent dans son bureau. Nous avons peu de temps, Eliane. Peux-tu lancer une analyse ADN à partir de cet échantillon de sang? Nos labos sont surchargés. Alice sortit de sa besace le morceau d'étoffe de son chemisier et le tendit à la québécoise.
Je vais mettre l'un de mes biologistes sur le coup,
promit-elle en s'emparant du sachet de prélèvement.
Tu cherches quoi exactement?
Une empreinte génétique exploitable. Tu peux le faire rapidement?
6 heures, ça te va?
Proposa-t-elle en rajustant ses lunettes. « Tu plaisantes.
Je peux utiliser des sondes miniatures et réduire ainsi le temps d'extraction de l'ADN et son amplification, mais ça te coûtera plus cher.
Fais aussi vite que tu peux. Dès que tu as les résultats, envoie-les à Thomas Krieg, en même temps que ta facture. J'aimerais l'appeler pour le prévenir. Je peux utiliser ta ligne ?»«
Fais comme chez toi, Gabi. Je me mets au travail tout de suite. »
Elle s'éclipsa, les laissant seuls dans le bureau.
Quel est le numéro de votre portable? Si ça ne vous fait rien, j'aimerais le communiquer à Thomas pour qu'il puisse nous joindre facilement.
Alice acquiesça et lui griffonna ses nouvelles coordonnées sur un papillon autocollant qui traînait sur le bureau. Pendant que Gabriel appelait son coéquipier, elle sortit dans le couloir. Elle activa son téléphone, composa le numéro de son père, mais tomba directement sur l'annonce lapidaire de sa boîte vocale.
Alain Schaeffer, pas dispo pour l'instant. Laissez message après bip.
Demandait une voix bourrue d'ours mal léché.
Papa, c'est Alice. Rappelle-moi dès que tu peux. C'est urgent. Très urgent.
Elle raccrocha, réfléchit quelques secondes, puis se décida à rappeler Seymour.
C'est encore moi.
Je me faisais du souci, bon sang. Tu as parlé à Kane?
Oui, il prétend être un agent spécial du FBI, de l'antenne de Boston.
Tu plaisantes? Ce type te mène en bateau, Alice.
Tu peux essayer de vérifier, mais je pense que cette fois il dit la vérité. Il enquête sur un meurtre qui présente des ressemblances avec ceux d'Eric Vaughn.
Je passerai un coup de fil à Sharman, le type de Washington qu'on avait aidé sur l'affaire Petraeus.
Merci, c'est moi. Tu es toujours au bureau ? J'ai encore un service à te demander. Le flic parisien ne put retenir un soupir.
Alice, je ne fais que ça depuis ce matin.
Je voudrais que tu prennes ta voiture et...
Maintenant ? C'est impossible. J'ai du boulot jusqu'à 23 heures.
Elle ignora ses protestations. Prends l'autoroute de l'Est jusqu'à Metz, puis continue jusqu'à Sarreguemines.
Alice, il y a au moins 350 bornes.
Elle poursuivit sans l'écouter. Il y a une ancienne usine sucrière désaffectée, entre Sarreguemines et Sarrebourg. Je ne sais pas exactement où elle se trouve, mais demande à Castelli de la localiser. Il ne doit pas y en avoir des masses dans la région.
Je t'ai dit non, Alice.
Emporte avec toi une torche, une grosse pince et des tubes fluo. Appelle-moi lorsque tu seras là-bas. Je voudrais que tu vérifies quelque chose.
Ça fait 8 heures de route aller-retour.
Je ne te le demanderai pas si ce n'était pas important. Fais-le au nom de notre amitié, supplia-t-elle. Il n'y a qu'à toi que je puisse faire confiance, putain. Au bout du fil, Seymour sentit la détresse de son ami et capitula.
« Dis-moi au moins ce que je suis censé trouver. »
soupira-t-il. « Un cadavre, je l'espère. » La route, la vitesse, le paysage qui défile, le grondement brut du moteur V8. Dans l'autoradio, la voix éternelle d'Otis Redding. Un énorme compte-tour greffé au centre de l'antique tableau de bord. Et les reflets d'ambre et de miel de la chevelure d'Alice. Ils avaient quitté Manhattan à 14 heures, taillé la route pendant près de 2 heures, traversant une bonne partie du Connecticut. D'abord l'Interstate 95, qui longeait la côte, puis la 91, qui remontait vers le nord. La circulation était fluide. L'autoroute ensoleillée, bordée tantôt de sapins, tantôt de ginkgo, d'ormes et de chênes blancs. L'esprit ailleurs, ils n'avaient presque pas parlé de tout le trajet, perdus dans leurs pensées. Chacun ruminait ses propres tourments. La Shelby GT filait comme une flèche. Au volant du bolide, Gabriel s'imagina un bref instant dans la peau d'un jeune homme des 60s, fier de sa Mustang, qui emmenait sa girlfriend voir le dernier Steve McQueen en écoutant les tubes de Roy Orbison ou des Everly Brothers, et redoutait la prochaine conscription qu'il enverrait peut-être au Vietnam. Il tourna la tête vers Alice. Visage dur et fermé, elle était plongée dans sa réflexion. La main crispée sur son téléphone, dans l'attente d'un appel. Avec sa veste de treillis, son visage clair, ses pommettes hautes et ses cheveux tirés en arrière, elle dégageait une beauté sauvage, presque martiale. C'était une évidence, Alice Schaeffer était en guerre. Mais, derrière la dureté de ses traits, on devinait par intermittence l'esquisse d'une autre femme, plus douce et plus paisible. Il se demanda alors comment elle était avant le drame. Souriante, apaisée, heureuse? Aurait-il pu tomber amoureux d'une telle femme s'il l'avait croisée dans les rues de Paris? L'aurait-il abordée? L'aurait-elle regardée? Il se joua mentalement la scène, prenant plaisir à faire traîner cette divagation. Puis, dans l'autoradio, The Clash, U2 et Eminem remplacèrent Otis Redding. Le charme se rompit. Goodbye les années 1960 et les digressions romantiques. Retour à la réalité. Gabriel cligna des yeux et baissa la visière pour se protéger de la luminosité. Nouveau coup d'œil dans le rétro pour accrocher le regard d'Alice en train de resserrer son chignon. C'est la route qu'il faut regarder, Kane. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Il laissa sa phrase en suspens. Elle soutint son regard dans le miroir. Comment pouvez-vous être certaine que les empreintes sur la seringue ne sont pas celles de Vaughn ? Elle haussa les épaules, agacée. C'est une supposition, je vous l'ai dit, pas une certitude. Ne vous foutez pas de moi. Alors que tous nos indices l'accusent, pas une fois vous n'avez cru à la présence d'Eric Vaughn aux États-Unis. J'ai des milliers d'heures d'interrogatoire au compteur. Je sais quand quelqu'un me ment, et c'est ce que vous faites en ce moment. Elle se défendit mollement. Rien ne vous permet de... Je vous signale que c'est moi, le seul flic autorisé à enquêter sur cette affaire. La coupa-t-il en haussant le ton. J'ai été réglo avec vous. Je vous ai donné toutes mes informations, alors que rien ne m'y obligeait. Elle soupira. Il poursuivit. Vous m'avez demandé de faire équipe avec moi et de plaider votre cause auprès de ma hiérarchie pour être associé à l'enquête. Très bien, j'accepte.
Même si pour ça, je mets ma crédibilité dans la balance. Mais si on est partenaire, on se dit tout, ok ?
Elle hocha la tête. C'était le genre de discours qu'elle aimait. Donc je vous repose la question, Alice. Comment pouvez-vous être certaine que les empreintes sur la seringue ne sont pas celles de Vaughn ? Elle se massa les tempes et prit une longue respiration, avant de confier. « Parce que Vaughn est mort, Kane. Vaughn est mort depuis longtemps. »